Voici la question du jour. Est-ce que la Bible est libre de toute erreur? La Bible elle-même va nous donner la réponse à cette question aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. De temps à autre, j'entends des gens qui disent que la Bible se contredit. Mais qu'est-ce qui amène les gens à percevoir des erreurs et des contradictions dans la Bible? Pourquoi les chrétiens affirment-ils que la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, est sans erreur? Et voici d'autres questions dont on va avoir la réponse aujourd'hui. Est-ce qu'on récolte toujours ce qu'on sème? Et quand on perd un être cher, est-ce que c'est normal d'être longtemps dans le deuil? Comment pouvons-nous marcher par la foi quand on est dans le deuil? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly va nous donner les réponses à ces questions. Elles sont toutes dans la Bible. C'est pas merveilleux, ça? Demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à comprendre les réponses qu'il veut nous donner par la bouche de son serviteur. Prions. Ô mon Dieu, on s'attend encore à toi. Sois toujours fidèle. À chaque fois qu'on te demande, tu donnes. Alors donne-nous les réponses à nos questions aujourd'hui. On sait que tu ne nous laisseras pas dans l'obscurité, que tu vas faire briller ta face sur nous. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous terminons notre étude du 37e chapitre du livre de la Genèse. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Genèse 37, verset 20. Ce chapitre nous présente Joseph qui devient maintenant le personnage principal de tout le reste du livre de la Genèse. Nous introduirons également le chapitre 38. À la dernière émission, nous avions vu que Joseph a 17 ans. Il est devenu le fils préféré de son papa, de son père Jacob. Il a fait des rêves qui ont attisé la haine de ses frères envers lui. Ils le haïssaient déjà, car à cause du favoritisme de leur père à son égard et parce qu'il rapportait leurs mauvaises actions. Les frères de Joseph étaient loin de mener des vies exemplaires. Jacob a découvert que Dieu n'approuvait pas la polygamie et cela a eu pour conséquence la souffrance dans son foyer. Maintenant, Jacob a envoyé Joseph prendre des nouvelles de ses frères qui font paître les troupeaux vers le nord. Il s'était rendu à Sichem. Mais comme il n'y avait pas assez d'herbe, cette année-là, ils avaient poursuivi leur chemin jusqu'à Dothan. Un homme a vu Joseph qui cherchait ses frères et lui a dit de se rendre vers Dothan car il avait entendu ceux-ci parler d'y aller. Et c'est là que Joseph trouve ses frères. Ceux-ci l'ont vu venir de loin, portant son manteau avec des manches qui le distinguaient d'eux. Ce manteau le plaçait au-dessus de ses frères, alors que Joseph n'était pas l'aîné, et qu'il était 10 à avoir priorité sur lui pour le droit d'aînesse. Ils étaient très jaloux. Ils ont décidé de le tuer. Ils le haïssaient à ce point. Lorsqu'ils l'ont vu venir, ils l'ont ridiculisé en disant « Voici le faiseur de songes qui arrive !» Poursuivons notre lecture, Genèse 37, à partir du verset 20. « Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben a déjà perdu son droit d'aînesse. Et Judas est la personne qui normalement devrait le recevoir. Cependant, ici Ruben montre qu'il a un meilleur jugement que les autres. Poursuivons notre lecture. Genèse 37, versets 21 et 22. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Ruben avait l'intention de revenir en cachette afin de libérer Joseph et de le renvoyer vers son père et expliquer à Jacob ce qui s'était passé. Imaginez, ils auraient tué Joseph à ce moment-là, n'eût été de l'intervention de Ruben, qui leur a dit de ne pas le faire. Poursuivons notre lecture, verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Porter cette tunique équivalait à agiter une cape rouge devant un taureau, parce que ses frères le haïssaient pour ce vêtement qui le distinguait d'eux. Ils n'acceptaient pas cela, car, dû à leur âge, ils auraient dû recevoir cette distinction avant lui. Versets 24 et 25. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Cette caravane était formée de marchands. Et on poursuit au verset 26. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ?» C'est au tour de Judas d'intervenir. Il n'y a rien de glorieux dans son plan, mais cependant, le meurtre n'en fait pas partie. Il ne veut pas qu'il y ait de sang sur ses mains et celles de ses frères. Il fait donc cette suggestion, qui est tout de même intéressante. Verset 27. « Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Ils voulaient se débarrasser de Joseph, pas nécessairement le tuer. Le faire conduire en Égypte pour le vendre comme esclave était un aussi moyen efficace de se défaire de Joseph. L'esclavage était un mode de vie cruel, impitoyable, donc Joseph mourrait certainement dans cet état en Égypte. Il n'entendrait plus parler de lui. Verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Je suis certain que plusieurs penseront ici que Moïse se trompe. Il parle d'abord d'Ismaélites, ensuite de Madianites, et encore une fois d'Ismaélites. Mais où veut-il en venir? Était-ce une caravane de Madianites ou d'Ismaélites? Y a-t-il une erreur dans la Bible? Que quelqu'un réponde maintenant à cette question. Il y a quelque temps, un livre m'a été remis. Ce livre contenait une liste de 1000 à 2000 soi-disant erreurs dans la Bible. Vous avez peut-être déjà lu ce livre. Après l'avoir examiné, les erreurs que j'ai découvertes étaient dans ce livre et non dans la Bible. Une des erreurs était cette apparente confusion au sujet de l'origine des marchands. Étaient-ils ismaélites ou madianites? Voilà la question. Elle est intéressante, cette question, et elle mérite que nous l'examinions de plus près. Premièrement, elle montre comment ceux qui critiquent et haïssent la Bible peuvent prendre pour une erreur quelque chose qui confirme l'exactitude de la Bible. Qui sont les Ismaélites? Ce sont les descendants d'Ismaël, le fils d'Abraham. Qui sont les Madianites? Ils sont les descendants de Madian, un autre fils d'Abraham. Abraham eut Ismaël d'Agar et Madian de Kitura, qu'il a épousé après la mort de Sarah. Ils sont tous frères. Et qui plus est, ils sont parents avec ce groupe d'hommes qui vendent leurs frères. Dans ce temps-là, qui était un Israélite? Bien, il n'y en avait que 12 en tout. Combien d'Ismaélites pensez-vous qu'il y avait à ce moment-là? Ismaël était plus âgé qu'Isaac, donc pouvait y en avoir plus d'une centaine. Combien pouvait-il y avoir de Madianites? Madian naquit après Isaac, donc ils ne pouvaient pas être nombreux, une douzaine tout au plus. Donc, les deux groupes étaient petits Il était dangereux de voyager à cette époque. Ils traversaient le désert en route vers l'Égypte. Ils faisaient route ensemble par prudence et parce que cela faisait leur affaire. Il faut se tenir en groupe lorsqu'il y a danger autour de nous. Et voilà que ces familles se tenaient ensemble. Ils voyageaient pour des raisons commerciales, et puisqu'ils étaient parents et parlaient la même langue, ils faisaient route ensemble. Si nous prenons le temps de l'examiner, nous voyons que la parole de Dieu se tient et qu'elle est exacte. C'est nous qui sommes souvent ignorants et dans les patates. Et c'est à cause de cette ignorance que nous percevons des contradictions apparentes dans la Bible. Moïse comprenait le contexte des événements et il l'a décrit avec précision. Maintenant, ils ont vendu Joseph, qui est amené contre son gré en Égypte. Poursuivons notre lecture, Genèse 37, versets 29 à 31. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères, et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je ? » Ils prirent alors la tunique de Joseph, et, ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ruben a-t-il participé à ce coup-là? Je ne le crois pas. Ils ont dû expliquer ce qu'ils ont fait à Ruben à son retour. Joseph est déjà loin en route vers l'Égypte. Maintenant, ils doivent trouver une histoire à raconter à Jacob pour expliquer la disparition de leur frère Joseph. Ils ont tué un chevreau et trempé la fameuse tunique dans le sang de l'animal. Verset 32. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Ce fut une bonne ruse. Ils ont prétendu ne pas avoir vu Joseph. Ils ont même prétendu ne pas reconnaître la tunique qui avait attisé leur haine contre Joseph. Verset 33. Jacob la reconnut et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Chers amis, on récolte toujours ce que l'on sème. Voilà la conclusion. Voilà la conclusion de Jacob. Elle est tout à fait naturelle. C'était le but de la manœuvre de ses fils. Arrêtons-nous sur cette supercherie un moment. Une supercherie impliquant un chevreau? Vous rappelle-t-elle quelque chose dont nous avons déjà parlé lors d'une émission précédente? Vous rappelez-vous lorsque Jacob et sa mère ont comploté pour tromper Isaac? Bien, je le rappelle. Ils ont tué un chevreau afin de préparer un plat comme Isaac les aimait. Et Jacob s'est servi de la peau pour faire croire à son père qu'il était poilu afin de passer pour Ésaü. Maintenant, ses fils, les frères de Joseph, ont tué un chevreau et trempé la tunique de plusieurs couleurs dans son sang afin de la montrer à Jacob. Est-ce que tu la reconnais? Certainement que Jacob l'a reconnue. Nous l'avons trouvé dans le désert. Il semble qu'il ait été tué par un animal sauvage. Il lui est arrivé quelque chose. Jacob est arrivé à la conclusion naturelle. Jacob fut trompé de la même façon qu'il a trompé son père. Il y a un principe biblique que nous retrouvons dans nos lectures, entre autres, dans l'Épître aux Galates, chapitre 6 et verset 7, un livre du Nouveau Testament. Je cite cette vérité. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Une personne récolte ce qu'elle sème. Pas un autre produit. Pas un produit semblable. Mais exactement ce qu'elle sème. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, précise Dieu dans ses Écritures. Jacob n'a pas semé de bons fruits et il a triché. Lorsqu'il est devenu père, il fut trompé par ses fils de la même façon qu'il a trompé son père. Mes chers amis, si vous semez du maïs, vous récoltez du maïs. Si vous semez de l'ivraie, vous récoltez de l'ivraie. Personne ne peut échapper à cette loi universelle qui est aussi vraie dans le domaine spirituel. Les croyants ne peuvent pas y échapper. Si vous pensez être épargné des conséquences du péché parce que vous êtes croyant, réfléchissez bien. Il vaut mieux réfléchir avant de pécher, car Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Vous ne serez pas exempté des conséquences de vos péchés, ni de cette loi. Qu'un jour, tu vas récolter ce que tu auras semé. Il y a quelques années, j'ai parlé à un pasteur. Il a trompé son épouse avec la femme d'un autre homme. Une triste histoire sordide. Alors que je lui parlais, il a essayé de se justifier avec un faux raisonnement. Il pensait pouvoir se permettre ce péché parce qu'il était spécial aux yeux de Dieu. Il pensait que cette loi ne s'appliquait pas à lui, à cause de ce qu'il était, de son métier, de son travail. Chers amis, combien d'entre nous pensons éviter les représailles à cause du péché, parce que nous nous mettons du côté de Dieu, de son bord, nous pensant n'ayant pas à subir les conséquences de notre désobéissance à la loi, principe divin. Si vous péchez, vous récolterez le fruit de votre labeur. Jacob a aussi récolté ce qu'il a semé. Maintenant, examinons de plus près la peine de cet homme. Lisons les versets 34 et 35 de Genèse 37. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Certains sont touchés par cette scène. « Voyez comme il aimait son fils, » diront-ils. Nous devons reconnaître que Jacob aimait Joseph, mais il n'a pas appris à marcher par la foi. Vous rappelez-vous la rencontre avec Dieu à Péniel, alors que le vieil homme de Jacob fut dégonflé comme un vieux pneu? Jacob fut brisé à ce moment-là, mais il n'a pas terminé d'apprendre à marcher par la foi. Au 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, la foi de Jacob est citée en exemple, mais ce n'est qu'au moment de son décès qu'elle est vraiment manifestée. Comparez le deuil de Jacob à celui de David pour l'enfant qu'il a eu de Bathsheba et pour son fils Absalom. David a aimé Absalom ainsi que l'enfant nouveau-né, autant que Jacob a aimé Joseph. Cependant, David était un homme de foi. Il savait qu'un jour, il reverrait l'enfant décédé. Il a affirmé que le petit enfant ne reviendra pas à lui, mais que lui un jour irait vers lui. David avait la foi. Ce n'est pas le cas de Jacob. Son deuil est porté anormalement longtemps. Je m'adresse maintenant à tous ceux et celles qui ont perdu un être cher. Je veux être délicat, certainement pas rude avec vous. Mais la leçon est là. Apprenez à marcher par la foi. C'est-à-dire de manifester votre foi lorsque vous reconnaissez que l'être cher disparu ne reviendra plus dans ce monde. Il faut en faire son deuil. Autrement dit, il faut l'accepter. Mais si l'être cher en question est un enfant de Dieu et que vous en êtes un, marchez selon la foi, car vous reverrez cette personne un jour. Non seulement la reverrez-vous, mais vous ne serez plus jamais séparés. Voilà l'espérance que l'Évangile place dans le cœur de tous ceux et celles qui ont placé leur confiance en Jésus seul. N'affichez pas le désespoir. La marque du manque de foi des gens de ce monde, c'est qu'ils sont dans le désespoir. Relevez la tête. Regardez en haut. Notre espérance est céleste. Il faut seulement la saisir. Mais Dieu ne nous y forcera pas. Il ne nous obligera pas à y placer notre foi. C'est un choix libre à chacun d'entre nous, d'avoir confiance en ce Jésus mort et ressuscité. Verset 36 de Genèse 37. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Maintenant, nous allons mettre de côté l'histoire de Joseph jusqu'au chapitre 39 pour examiner un moment de la vie de Judas. Une triste histoire qui nous semble inutile, à première vue. Un des chapitres les plus malheureux de la Bible. Lorsque vous l'aurez lu, vous vous demanderez pourquoi ce récit fut inclus dans le texte biblique. Alors, comme introduction pour la prochaine émission, lisons le premier verset de Genèse 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Nous allons examiner cet incident lors de cette prochaine émission. Oh, nous n'irons pas dans tous les détails, mais nous nous arrêterons sur quelques-uns, car ce chapitre va nous parler du péché et de la honte de Judas. Cela nous est relaté dans ces prochains versets. En passant, j'aimerais vous préciser que le Messie fut issu de la tribu de Judas. Nous y verrons des noms tels que Judas et Tamar. Ces noms vous rappellent peut-être quelque chose. Vous les avez déjà entendus. Ces noms se trouvent dans la généalogie de Jésus-Christ, au premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 1, verset 3, et je cite, « Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. » Cela vous étonne peut-être, mais ce sont les noms d'ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons le péché grave de Judas et Jésus-Christ faisant partie de sa descendance. Il a vraiment pris notre place ici-bas. Ce Jésus, ce Fils de Dieu, il est né dans une lignée pécheresse. C'est ce que la Bible nous enseigne en disant, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Cette vérité se retrouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4 et verset 15. Oui, chers amis, Jésus est passé par une lignée humaine, tout à fait humaine, une lignée où tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché atteint tous les hommes. C'est ce que nous pouvons lire dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant le 38e chapitre du livre de la Genèse.
Merci, Régent. Une chose qui me réconforte et me rassure, c'est de savoir que la Bible, la parole de Dieu, est sans erreur. Je sais que peu importe ce que je traverse dans ma vie, je peux toujours avoir un endroit sûr où je peux trouver les solutions à mes problèmes, le réconfort lorsque je suis dans la peine, l'encouragement quand je suis à bout de ressources, la correction quand je fais un faux pas. Un endroit où Dieu vient parler à mon cœur pour me dire « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et Dieu me dit réellement ça. Vous pouvez trouver ces paroles en ouvrant ce grand livre dans Ésaïe au chapitre 41, verset 10. C'est mon verset depuis quelques années. C'est le verset qui me revient le plus souvent à la pensée depuis environ peut-être 3 ou 4 ans. Et c'est bon d'apprendre certaines portions de la Bible par cœur, afin que, si on est dans l'auto, par exemple, et on a du chagrin, bien un verset vient nous consoler, parce qu'on s'en rappelle, on l'a mémorisé. Et prenons le temps de lire la Bible chaque jour, demandant à Dieu de nous parler, de nous instruire, de nous corriger, de nous consoler. Il va le faire. Il le fait pour moi depuis longtemps. Je savoure ces moments de la journée où je vais à la rencontre de Dieu, dans ce livre vivant qu'est sa parole. Je l'ouvre le matin avant de déjeuner, et le soir aussi. J'appelle ça mon petit goûter le soir avant de me coucher. Et c'est tellement bon de goûter combien Dieu est bon à travers sa parole. Es-tu dans le deuil en ce moment? As-tu perdu un être cher? C'est normal de vivre ce deuil. Et je te comprends. Parce que j'ai aussi perdu des proches. Mais comme Réjean nous l'a enseigné aujourd'hui, il faut pas que tu restes trop longtemps dans ce deuil. Tu sais que la personne ne reviendra pas. Mais tu sais aussi que si cette personne et toi avez reçu le cadeau de la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, vous allez vous revoir un jour. Vous serez ensemble avec Dieu pour l'éternité. Vous serez dans la joie et Dieu a promis d'essuyer toutes larmes de vos yeux. C'est écrit dans la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Qu'il réjouisse ton cœur, qu'il te fasse du bien et qu'il te garde fidèle et fort jusqu'au retour de Jésus. Ce ne sera pas long puisque Jésus a dit « Je viens bientôt ». Le Seigneur n'est pas menteur. Attends-le et attends-toi à lui. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point dans ta vie où tu t'attends à Dieu, où il n'est pas un étranger pour toi, un Dieu inaccessible. Un Dieu veut être accessible. Il est accessible. Il t'invite aujourd'hui à devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui est nourri par Dieu, par sa parole à chaque jour. Demande à Dieu de te sauver. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Que tu es sans Dieu dans le monde. Et Dieu ne sera pas insensible à ton appel. Dis-lui, Seigneur, je suis perdu, j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle, puis il va le faire.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici, Réjean Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.